Bonjour à toutes et à tous, retrouvez votre émission L'Instant Nature, une émission proposée tous les 15 jours par l'Association pour la sauvegarde de l'environnement Carolie Pontois. Cette émission est animée par Xavier.
Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Merci de votre fidélité. Merci d'être là. Merci d'être présent. Bien sûr, l'émission Instant Nature avec Xavier, avec beaucoup, beaucoup d'informations sur l'antenne de Radio Plus Haleine. Bonjour Xavier.
Bonjour Edwige, bonjour à toutes et à tous. Et ça y est, 15e émission de la saison 2024-2025. Alors, on va commencer par les humeurs. Alors, une bonne humeur d'abord. Je constate que cette année à Carlepont, au moins au centre du bourg, les hirondelles sont très nombreuses. Et ça, c'est un excellent signe pour la biodiversité. Alors surtout, on ne touche pas à leur nid. Et puis on ne met pas d'insecticides parce que ce sont elles, les insecticides. Quand vous les voyez qui virevoltent au-dessus de chez nous, elles ramassent tous les insectes qui se promènent par là et qui pourraient par ailleurs nous embêter. Donc bravo les hirondelles, et puis quel bonheur de voir que cette année, il me semble bien qu'il y en a plus que les années passées, au moins dans le centre-bourg de Carlepont. Et puis les oiseaux chantent, les nichoirs à mésanges sont occupés, les pinsons nous réjouissent avec leurs chants qui font qu'on dit parfois gai comme un pinson. Bref, de ce côté-là, une bonne humeur. Alors, sinon, une mauvaise humeur. D'après France Inter, la Fédération nationale des chasseurs a appelé chaque chasseur ou délégation de chasseurs à se mobiliser samedi dernier, 17 mai, devant chaque mairie pour dénoncer ce qu'ils considèrent comme un acharnement contre leur activité. Et alors, dans un manifeste remis au maire, il dénonçait toute une série de mesures et avait notamment 11 revendications, comme la reconnaissance de la chasse comme patrimoine culturel de l'UNESCO, le refus de l'interdiction du plomb sans alternative réaliste, le maintien de toutes les espèces chassables et la suppression des moratoires sans fondement scientifique, ou encore la défense des chasses traditionnelles. Alors, c'est leur point de vue, mais c'est vrai que la prolifération des plombs des chasseurs dans la nature, c'est très mauvais, puisque le plomb fait partie de ces métaux lourds dangereux qui peuvent provoquer chez l'homme de très graves maladies, comme ce qu'on appelle le saturnisme. Et puis, les chasses traditionnelles, oui et non, il est certain que la chasse au blaireau avec déterrage est une chasse qui est quand même très cruelle pour les animaux. Enfin, ceci dit, Alain Bougrain-Dubourg, le président de la LPO, a dénoncé auprès de France Inter, je cite, « un manifeste qui bafoue le droit et méprise la science ». Il ajoute « tout ça me paraît surréaliste ». Et il poursuit notamment en dénonçant la demande de suppression des moratoires sur les espèces chassables. Selon lui, c'est une honte à un moment où il y a un déclin de la biodiversité. Alors cette initiative radicale des chasseurs ne va certainement pas faciliter un dialogue que nous, ici, nous voulons et nous estimons nécessaire entre les écologistes et les partisans de la chasse. Donc, nous, à SEC, nous appelons au dialogue, chacun devant raisonnablement prendre ses initiatives. On passe à un petit dossier et on revient encore à la LPO, mais cette Ligue de protection des oiseaux est une source d'information inépuisable. Elle bataille pour la biodiversité et pas uniquement pour les oiseaux. Et elle donne sur son site des tonnes d'informations plus intéressantes les unes que les autres. Et ces jours derniers, la LPO s'intéressait à la chevêche d'Athéna. Alors la chevêche, c'est une chouette. Et Edwige, tu sais ce qui différencie les chouettes des hiboux ?
Je sais pas, le plumage...
Alors, c'est sur la tête. On dirait que le hibou a deux oreilles. En réalité, c'est deux aigrettes.
Ah.
Alors que le dessus de la tête des chouettes est parfaitement plat.
D'accord.
Donc quand on voit un rapace nocturne avec comme des oreilles, mais ce ne sont pas des oreilles bien sûr, hein, ce sont des petites aigrettes de plumes, on a affaire à un hibou, que ce soit un petit duc, un grand duc, etc. La chevêche est donc eh bien, une chouette aux yeux dorés, de petite taille, et qui laisse rarement insensible celui qui a la chance d'en voir une. Bon, dans la journée, c'est rare, mais ça peut se faire. Mon fils a réussi à en photographier une. Alors, cette chevêche d'Athéna, c'est parmi les plus petits rapaces nocturnes de France. À dire vrai, elle est de la taille d'un merle noir, en beaucoup plus trapu. De couleur brun-roux, elle est ponctuée de taches crème, et elle a la gorge claire qui est visible lorsque l'oiseau est dressé. À l'arrière de la nuque, elle présente un V blanchâtre. Elle a une envergure, c'est-à-dire quand les ailes sont ouvertes, de 60 cm, ce qui n'est pas énorme, effectivement. En longueur, elle fait 22 cm et la femelle pèse 200 grammes. Alors le mâle, qu'il est difficile de reconnaître parce qu'il n'y a pas un vrai bimorphisme sexuel. Chez les oiseaux, le bimorphisme sexuel, c'est par exemple chez les merles, où monsieur est noir avec un bec jaune et où madame est brunâtre et sans bec jaune. Alors, chez les mésanges charbonnières, la seule différence, c'est la cravate. Monsieur a une cravate un peu large et madame une cravate plus étroite. Mais il y a des oiseaux comme chez les canards où on distingue parfaitement les mâles et les femelles. Alors on parle de dimorphisme sexuel, ce qui permet de les distinguer. Alors chez les chevêches, pas vraiment. Simplement, le mâle est un peu plus petit. Il pèse moins lourd, 185 grammes. Et sa face blanche peut être plus claire que celle de la femelle. La chevêche possède 22 cris et chants différents. Donc, quand on entend une chouette avec un « ouh ouh », c'est seulement un de ses chants, mais ça a une capacité de chant beaucoup plus étendue. Sa vie, 10 à 12 ans en milieu naturel, 18 ans en captivité. La chevêche est sédentaire. Elle se reproduit dans une grande diversité de cavités. À l'origine, elle nichait dans des crevasses de falaises et dans des trous d'arbres creux. Mais dans les milieux anthropiques, c'est-à-dire là où il y a des hommes, elle va volontiers occuper les arbres les plus grands des vergers, pommiers, poiriers, pruniers. Elle s'intéresse aussi aux saules. Elle peut nicher dans des bâtiments et également dans des nichoirs. Ça existe, des nichoirs à chevêche. Le lieu de reproduction est proposé par le mâle et adopté par la femelle. Il varie énormément allant de troncs d'arbres creux à des toits de granges ou autres habitations. Les chevêches y logent de février à mai. La femelle couve seule pendant 28 jours environ. Et pendant ce temps-là, c'est le mâle qui fait les allers-retours pour assurer le nourrissage de madame. La ponte a lieu en avril-mai, voire jusqu'à début juin dans certaines régions de France. 2 à 5 œufs blancs. Certains œufs peuvent ne pas éclore pour diverses raisons. Les jeunes sont nourris par les deux parents pendant les deux premières semaines. Puis, ils dépècent tout seuls les proies apportées au nid et s'envolent dès l'âge de 5 semaines. Mais ils peuvent continuer à loger dans le lieu de reproduction des parents bien après leur départ. Et ils pourront s'accoupler dès la prochaine saison de reproduction. Alors cette chevêche d'Athéna, elle chasse à l'affût depuis un perchoir ou en vol sur place. Et elle capture ses proies au sol. Donc quand elle a repéré quelque chose, bah, elle fait comme de nombreux rapaces. Elle plonge directement et rapidement sur la proie. Que mange-t-elle? Ça varie en fonction de ses habitats, en fonction des saisons et en fonction de la spécialisation de certaines. Mais principalement, il y a 4 catégories. Les micro-mammifères, donc du genre les petites souris, les oiseaux, les insectes et les lombriques. Lorsqu'on regarde de plus près son régime alimentaire, on peut se rendre compte que les campagnols et mammifères en constituent plus de 80%, complétés par des proies plus petites telles que des reptiles ou des insectes. Bon, dans le midi, les insectes, par contre, c'est 80% de son régime de printemps et d'été. Il faut à une chevêche 50 à 80 grammes de nourriture par jour. Et comme elle avale ses proies tout entière, son organisme doit faire une sélection naturelle pendant la digestion et elle rejette ce qu'on appelle des pelotes de réjection qui font quelques centimètres et qui contiennent des éléments non comestibles qui permettent de savoir ce qu'elle a mangé. Et je sais que mon fils en a ramassé non loin de chez lui et on voit très très bien si c'est des poils, des petits os, des plumes ou je ne sais quoi. Alors en France, on estime en 98 la population de chevêches entre 11 000 et 35 000 couples. Donc la marge est un peu importante, mais il est certain que ce n'est pas des oiseaux très faciles à comptabiliser. Ceci dit, la France a 10% de l'effectif européen et en 76, il y avait de 10 000 à 100 000 couples. Donc c'est une espèce qui est en déclin dans de nombreuses régions françaises. Plusieurs causes, la destruction de leur habitat, l'évolution de l'agriculture, la disparition de centaines de linéaires de haies, la régression des vergers traditionnels, la mise en culture des prairies. L'urbanisation aussi, la rénovation des vieux bâtiments parce qu'on supprime les creux où elles peuvent nicher. Et du coup, les pesticides également. La chevêche étant un prédateur, elle est située au sommet de la chaîne alimentaire, donc elle peut souffrir d'empoisonnement du fait de l'accumulation des substances toxiques. Ben oui, vous mettez du produit contre les souris, elle mange la souris, elle concentre les saletés qu'elle a trouvées dans la souris. Il y a aussi des métaux lourds, des hydrocarbures, qui ont des impacts sur son taux d'éclosion. Elle est victime de collisions avec les voitures. Pourquoi ? Eh bien parce qu'ils aiment bien chasser dans des zones où la végétation est très rase. Et donc quand le bord des routes est bien tondu, eh bien elles aiment bien chasser au bord des routes. Et puis ben, du bord de la route à la route, et paf, la voiture et la chevêche a terminé son existence. Donc, les talus et fossés routiers juste fauchés au printemps deviennent des milieux attractifs pour elles. Le risque de collision est alors très important. N'oublions pas qu'une voiture est dangereuse à partir de 60 km/h pour ce type d'animaux. Voilà ce qu'on peut dire des chevêches. Il y a aussi les poteaux électriques creux. Les poteaux téléphoniques notamment sont des pièges pour les oiseaux qui pénètrent à l'intérieur et ne peuvent plus en sortir, ils meurent prisonniers. Alors c'est vrai pour les chevêches, mais aussi pour les mésanges, pour les sittelles. Une des solutions consiste à poser des bouchons à l'intérieur des poteaux ou poser un chapeau au sommet pour supprimer le risque de pénétration de l'oiseau. Des jeunes d'une année peuvent se noyer dans des abreuvoirs à bétail. Une fois tombés dans l'eau, ils ne peuvent plus sortir car les bords des vieilles baignoires et des bidons qui sont dans les champs pour abreuver les animaux sont trop abrupts. Alors, il faut aussi savoir qu'il y en a qui tombent dans les cheminées. Bref, c'est une espèce protégée en France selon la loi de 1976. Il est interdit sur tout le territoire métropolitain et en tout temps la destruction ou l'enlèvement des œufs et des nids, la destruction, la mutilation, la capture ou l'enlèvement, la naturalisation des oiseaux visés, qu'ils soient vivants ou morts, leur transport, leur colportage, leur utilisation, leur mise en vente ou leur achat. Donc une espèce protégée. Sur le plan international, elle est aussi soumise à des règles de conservation de la vie sauvage et du milieu naturel. Bref, le commerce des chevêches est interdit dans toute l'Union européenne. Elle est inscrite sur la liste rouge de la faune menacée en France dans la catégorie en déclin. Elle est classée dans la catégorie 3 des espèces européennes à statut de conservation défavorable. mais c'est un animal utile. Autrefois, les chouettes, on pensait qu'elles portaient malheur, on enclouait sur les portes des granges, comme les chats noirs. Il y a toute une série d'animaux qui, dans les croyances populaires d'autrefois, étaient néfastes, nuisibles. Il faut savoir que les rapaces sont des animaux utiles pour la diversité de l'environnement et ils nous préservent de la surproduction d'animaux nuisibles. Hein. Quand ils suppriment des mulots ou des souris, c'est tant mieux pour nos jardins.
Hein. Oui, ça c'est vrai.
Voilà. Eh bien, après ce petit dossier chevêche emprunté en grande partie au site de la LPO, et vous pouvez y aller, vous trouverez encore plus de renseignements. Et puis pas uniquement sur la chevêche, il y en a sur les dauphins, il y en a sur les huppes. Bref, le site de la LPO est extrêmement riche en informations si vous aimez les oiseaux. Eh bien, place à Joseph Haydn pour son quatuor à cordes 62 en do majeur, opus 76 numéro 3, troisième mouvement, Menuetto Allegro.
C'est parti.
Thank you. Ça y est, on a de nouveau l'antenne.
Ça y est, c'est...
Eh bien, c'était de la toute fin du XVIIIe siècle. Menuetto, c'est une danse, et effectivement, c'était assez dansant. Alors, on va donner quelques extraits d'une chronique d'Hugo Clément. Alors, Hugo Clément, qu'on voit souvent sur la 5, dans des documentaires pour la défense de l'environnement, de la planète. Eh bien, le 14 mai, le matin, de bonne heure, sur France Inter, il a fait une chronique qui rend relativement heureux. Voilà quelques extraits. Deux études montrent que la pollution plastique recule sur le littoral, même si la situation reste préoccupante. Les enfants d'aujourd'hui, dit Hugo Clément, ne ramassent plus seulement des coquillages, mais aussi des petits déchets plastiques omniprésents sur les plages depuis que l'humain a généralisé l'utilisation de cette matière issue du pétrole. Eh bien, figurez-vous que cette déferlante de plastique sur nos côtes est en train de reculer. C'est la conclusion d'un rapport scientifique européen publié récemment. Près de 7500 déchets d'une taille supérieure à 2,5 cm ont été ramassés sur les plages de 16 pays de l'Union européenne pour comparer la période 2015-2016 et la période 2020-2021. Résultat, le volume global de déchets a diminué de 29%. Et celui des plastiques à usage unique a chuté de 40%. Alors certes, la pollution reste très importante, puisque les scientifiques ont calculé une médiane de 309 déchets tous les 100 mètres en France, sans compter les déchets de moins de 2,5 cm. Mais quand même, cette situation s'améliore nettement, et c'est confirmé par une étude française cette fois-ci, publiée par le CEDRE, un organisme missionné par le ministère de l'Environnement. Les plastiques à usage unique ne représentent plus que 17% des déchets ramassés en 2023 contre 25% en 2019. Alors comment expliquer cette amélioration ? D'après les auteurs, c'est le résultat direct de l'interdiction des plastiques jetables adoptée par l'Union européenne en 2019 et entrée en application en 2021. De nombreux produits en plastique à usage unique ont été en effet proscrits, les pailles, les cotons-tiges, les touillettes, les couverts jetables. Ces objets font partie de ceux que l'on retrouve encore aujourd'hui sur les plages, mais leur nombre a significativement diminué. L'étude française souligne quant à elle l'impact positif des mesures prises dans notre pays dès 2016, comme les campagnes anti-mégots, alors là ils n'ont pas été à Noyon, bon, passons, ou encore l'interdiction des sacs plastiques très fins. Cela prouve que les changements de législation peuvent avoir des effets très concrets et positifs pour diminuer la pollution. Alors évidemment, nos plages sont encore sales, on est loin d'avoir réglé le problème des déchets plastiques, mais cet exemple, conclut Hugo Clément, devrait nous inspirer, car il fait la démonstration, tenez-vous bien, que la volonté politique et des décisions ambitieuses peuvent faire la différence, surtout quand elles sont mises en œuvre au niveau européen. Et puis, termine-t-il, une bonne nouvelle de temps en temps, ça ne fait pas de mal. Alors, ça s'oppose totalement aux autres informations et à la tendance aujourd'hui à vouloir revenir sur toutes ces mesures, un peu casse-pieds, c'est sûr, mais qui améliorent notre environnement et cette maison commune où nous vivons. Hein. Donc, est-ce qu'il ne faut pas accepter quand même ces règles européennes quand on voit que ça marche, hein, au lieu de tout le temps râler parce qu'on veut nous pousser de façon parfois un peu empoisonnante à améliorer la nature. Et dans le même ordre d'idées, on va bientôt fêter le 10e anniversaire de l'encyclique du pape François pour une écologie globale, Laudato aussi. Texte fondamental dont on a reparlé un peu ces jours-ci, mais pas beaucoup, suite à son décès. On reviendra un petit peu dessus dans une prochaine émission. Mais le professeur Jean Jouzel, qui fut membre du GIEC, le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, donc l'organisme international, a récemment rappelé le fort intérêt écologique de ce document, allant bien au-delà de la religion de son auteur. Voilà pour les brèves. Conseil de la semaine. Premier conseil, privilégier les circuits courts. Bonne nouvelle encore, les fraises du Noyonnais sont présentes sur le marché de Noyon. Plus la peine d'acheter des fraises venues d'Espagne, souvent mal mûries, pas toujours très goûteuses et transportées dans des conditions que l'on ignore. Sur vos marchés, les fraises du Noyonnais, en tout cas, sont là. Profitez-en, elles sont bonnes et elles n'ont pas voyagé. Nos maraîchers locaux, alors je parle pour le Noyonnais, les auditeurs un peu plus éloignés doivent avoir des choses similaires chez eux. Nos maraîchers locaux commencent à avoir des courgettes. Pas besoin d'acheter des courgettes italiennes. Même si ce n'est pas de l'agriculture bio 100%, si c'est de l'agriculture raisonnée, il vaut mieux un bon produit en agriculture raisonnée cultivé à 5 km de chez vous qu'un produit soi-disant bio cultivé à l'autre bout du monde. Ça, c'est ma position et je pense que de nombreuses personnes raisonnables peuvent la partager. Alors, circuit court, eh bien, nous avons, nous, à Carlepont, tout près de chez nous, la MAP d'Ourscan. Allez regarder le site de la MAP d'Ourscan sur Internet. AMAP, A-M-A-P, ce sont des associations, des structures associatives qui fournissent des légumes et parfois bien d'autres choses. Allez regarder leur site. Et puis, il y a quelqu'un qui se propose de créer sur Carlepont une ruche qui dit oui. Alors ça, c'est des petits magasins qui, eux aussi, privilégient le circuit court. Allez voir sur Internet, il y en a là partout dans notre région, du nord au sud. Ça peut être intéressant. Alors évidemment, autre conseil, mangez moins de viande. Je ne vous demande pas d'être vegan ni même végétarien, mais les steaks de 250 grammes, c'est plus bon pour aujourd'hui, ni pour la planète, ni pour vous. Donc réduisez votre consommation de viande, mais achetez de la bonne viande et de la viande locale. Pas de la viande venue du Pérou ou de l'Argentine. Alors on l'a dit tout à l'heure, laissez les hirondelles vous débarrasser des moustiques et les hérissons des limaces. Je vous certifie que c'est radical. J'ai un hérisson ou plusieurs dans mon jardin, mais on ne les voit pas parce qu'ils sont de nuit, ces petites bêtes. Mais mes salades jusqu'à présent, pas une seule limace. Hein? Et je n'ai mis aucun produit. Donc, mais alors, si vous empoisonnez pour les limaces, vous allez empoisonner le hérisson. Mmh, et il détruit bien d'autres choses dans votre jardin. Mmh. Mais pas vos plantations, vos visiteurs indésirables. Et puis, planter et semer des fleurs autant que vous le pouvez dans vos jardins, sur vos terrasses et vos balcons. Une abeille, dans son temps de vie, je crois, va visiter 6000 fleurs.
Ah oui.
Oui, oui. Alors, à lire, à voir, à écouter ou réécouter. Ben, allez réécouter le podcast de La Terre au Carré du 16 mai dernier sur le site de Radio France. Une interview de Julien Perrault, le fondateur de La Salamandre. Alors, La Salamandre, c'est une maison d'édition qui n'est pas loin de chez nous. Elle est en Suisse, au bord du lac Léman. Et elle produit des revues dont nous avons déjà parlé. Une pour adultes, une pour adolescents, une pour enfants, qui s'appelle La Salamandre, La Petite Salamandre. Et puis la troisième, je ne sais plus trop. Ils éditent des bouquins absolument remarquables. Et entre le 11 novembre 2024 et le 4 février 2025, Julien Perrault a abandonné un peu son boulot pour rédiger les quelques 300 pages de son livre « Une vie pour la nature », publié aux éditions Salamandre. Alors allez sur le site La Salamandre Édition, vous aurez tout ce que vous voulez, y compris d'ailleurs des petites vidéos sur YouTube que Julien Perrault a réalisées et qui sont très sympas sur l'étude de la nature. Cet ouvrage, nous dit la présentation, est composé d'une mosaïque de courts chapitres, écrits comme des nouvelles. Il suit l'ordre chronologique de la vie de Julien Perrault, mais n'est pas pensé comme une biographie. Le lecteur peut butiner comme il le souhaite, selon les mots de Julien Perrault. Il y raconte le développement de sa passion et de son action pour la nature. Et n'oubliez pas le nom de notre émission. Hein, et son action donc au service des plantes et des animaux, nos cousines et cousins sauvages, dit-il. Certains chapitres sont inspirés d'articles ou d'éditoriaux qu'il a rédigés dans la revue Salamandre, dont il est fondateur. Un magazine artisanalement confectionné de tout cœur depuis 42 ans. Hein, il a commencé, il avait une dizaine d'années, à publier des petits documents qu'il revendait à ses copains d'école. Et donc, ça fait 42 ans qu'il est plongé dans un travail de rédaction sur la nature. Conclusion de la présentation, avec cette publication, il cherche à véhiculer un message positif et nous rappelle à quel point la nature est une ressource essentielle pour se sentir bien au quotidien. Bon, il y a toujours les émissions de France Inter. Je vous demande d'abandonner quelques minutes Radio Puisalène pour ces deux émissions. Le dimanche à 13h23, donc une demi-heure, c'est Au de mon amour. Tous les jours de 12h30 à 12h45, carnet de campagne de Dorothée Barba. C'est souvent très intéressant. Et alors, le livre de Julien Perrault, Une vie pour la nature, il est sorti en mai 2025. Voyez si nous sommes à jour sur Radio Puisalène. Édition La Salamandre, le site, vous tapez salamandre.org et vous allez arriver dessus. On a parlé des chouettes, un joli livre traduit de l'anglais par Marianne Taylor qui s'appelle Chouettes et hiboux. C'est un album qui recense les quelques 200 variétés de hiboux et de chouettes du monde avec de belles photos. C'est paru en 2019 aux éditions du Gerfaux à Chartres. Ça peut se trouver sur Internet, 36 euros, c'est un peu cher, mais c'est un très bel album, et ça vous en apprendra plus que ce que je peux faire sur ces rapaces nocturnes. Je rappelle que toutes ces recommandations sont absolument pas de la publicité, nous ne touchons pas un sou pour faire de la publicité, nous sommes indépendants, et nous vous parlons de ce que nous avons aimé. Eh bien, il n'y a plus qu'à se dire à dans 15 jours pour une nouvelle émission, la semaine prochaine pour une rediffusion, et à vous inviter tous à rester sur l'antenne pour le petit jardin de Radio Puisalène avec Edwige.
Merci Xavier pour toutes ces belles informations sur Radio Puisalène. Tout de suite, et bien on va continuer. On prend le relais tout de suite avec Radio Puisalène. Excellent après-midi.
Bonjour à toutes et à tous. Retrouvez votre émission L'Instant Nature, une émission proposée tous les 15 jours par l'Association pour la sauvegarde de l'environnement Caroli Pontois.